Docteur Judith Marcoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurochirurgienne attachée au Centre universitaire de santé McGill et spécialisée dans les traumatismes crâniens. Et pour Catherine, qui est ici, vous avez entendu Judith Marcoux, c'était très important de parler de ça avec un médecin. Elle m'a dit tout à l'heure, il y a juste des médecins pour expliquer ça. Même moi, je ne pourrais pas l'expliquer. Tu es toujours d'accord avec ça, Catherine?
Absolument.
Judith Marcoux, il y a plusieurs types de TCC, là, 3, léger, modéré, sévère. Aujourd'hui, bien sûr, on s'intéresse au TCC sévère. C'est ce qu'a vécu le 10 janvier 2013 dernier Catherine, qui est à ma gauche. Vous ne la voyez pas. Tout d'abord, c'est quoi un TCC sévère?
Bien, un TCC, c'est un traumatisme crânio-cérébral. Puis quand on parle de léger, modéré, sévère, c'est, on les classifie selon ça, mais en fait, c'est un continuum. On a du plus léger que la commotion cérébrale jusqu'au plus grave où les gens se présentent en coma. C'était donc le cas de Catherine. Mais c'est vraiment un continu. On fait des catégories parce que ça nous aide pour le traitement, puis aussi un peu le pronostic, qu'est-ce que nos patients ont besoin. Ouais. Mais c'est toute la même maladie, c'est tout le même genre de blessure, mais avec un degré de sévérité plus important quand on parle des traumas graves. Donc, un trauma sévère ou grave, c'est ça, c'est quand quelqu'un se présente dans un état de coma suite à l'accident.
Il y en a à peu près combien au Québec chaque année?
Je n'ai pas les nombres exacts, mais je peux vous dire ici, donc au Centre universitaire de santé McGill, on est un des 3 centres tertiaires, donc qui reçoit normalement les plus graves dans la province. On en reçoit au-dessus d'une centaine par année. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est des chiffres à peu près équivalents dans les 2 autres hôpitaux. Donc, il doit y avoir dans les 300 à 400 comme il faut.
Carole, vous dites qu'il y en a beaucoup. Hein? Vous avez un petit peu parcouru, épluché ces chiffres-là.
Ben oui, parce que c'est sûr que là, on était en lien avec ça. Là, on a fait un petit peu de recherche, mais finalement, on se rend compte qu'il y en a plus qu'on pense des traumatismes crâniens.
Judith, j'ai envie de demander à Carole d'expliquer qu'est-ce qu'elle a dit au médecin qui l'a reçue lorsqu'elle est arrivée au centre de traumatologie à Winnipeg et que le médecin lui a dit « Votre fille a un TCC sévère ». Vous avez une réaction quand même un peu drôle, Carole. Qu'est-ce que vous avez répondu?
Bien, en fait, moi, j'avais aucune idée ce que c'était.
C'est,
comme, OK, elle a un TCC très sévère, OK, mais et après?
Qu'est-ce qu'elle a?
Qu'est-ce qu'on fait?
c'est quoi la suite, là? J'ai aucune idée de ce que c'est. Tu me parles de quoi, là?
Oui. Qu'est-ce qui arrive au cerveau lorsqu'il y a un TCC sévère qui arrive, Dr Marcoux?
Donc, évidemment, il y a ces blessures au niveau du cerveau, des différentes structures, donc des neurones. Donc, les neurones qui peuvent être au niveau du cortex, différentes parties du cortex, au niveau moteur, au niveau de la parole, des structures aussi plus profondes, ce qui va pour la mémoire, la cognition, donc la personnalité, les émotions et tout ça peuvent être tout affectés. Puis aussi, pas seulement les neurones comme tels, les corps cellulaires, si on veut, mais toutes leur queue, les axones qu'on appelle, donc toutes les communications entre les neurones. Donc, c'est ça aussi qui fait que notre cerveau fonctionne comme il est. C'est pas juste un neurone, c'est tous ensemble comment ils fonctionnent en réseau. Et c'est ça souvent qui est affecté dans les traumas plus graves. C'est la communication entre eux. Puis c'est souvent comme ça que j'explique aux familles. Des fois, on voit pas tellement de choses sur un scan cérébral. Il y a quelques petites hémorragies, vraiment pas impressionnant des fois. Mais pourquoi les gens sont dans un coma profond? Mais c'est parce que les voies de communication entre les différentes parties sont affectées.
Et l'enjeu, et Carole le décrit bien dans son livre, c'est le liquide. Il y a du liquide dans le cerveau et ce qu'on souhaite, c'est que l'on retire ce liquide-là, en fait, qu'il se dissout. À quoi il est dû, ce liquide-là, Dr Marcoux?
Mais en fait, bon, il y a du liquide de façon normale dans certaines parties du cerveau. Là, ce qui arrive avec un trauma grave, souvent, puis c'est pour ça que c'est là que le neurochirurgien intervient, c'est le rôle, c'est de mesurer la pression dans la tête. Parce que le cerveau, évidemment, quand on se blesse ailleurs, là, on peut enfler. Okay? On a un coup, on a un gros bleu, ça enfle, mais c'est la peau qui s'étire, puis ça fait pas plus de problèmes que ça. Quand c'est dans la tête, le cerveau est dans une structure rigide, qui est le crâne. Donc, s'il y a moindrement un peu de sang ou d'enflure, il n'y a pas beaucoup de place. Alors, la pression va monter, puis cette pression-là fait que ça peut endommager encore plus le cerveau qui est déjà blessé.
Oui. Évidemment, c'est ce que l'on souhaite pas. Oui.
Donc, on peut pas nécessairement réparer tellement ce qui est déjà blessé, mais ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de prévenir plus de dommages encore en contrôlant la pression. Et quand il y a de l'enflure, j'imagine que c'est ça que vous voulez dire par le liquide, c'est qu'on appelle de l'édème cérébral ou de l'enflure, c'est dans les cellules mêmes ou autour des cellules qui s'accumulent un petit peu de liquide. C'est de l'enflure, ouais, littéralement. Mm-hmm. Et en tant que tel, c'est pas ça qui est nécessairement le problème, mais quand ça cause autant de pression, c'est beaucoup plus dommageable. Mm-hmm.
Docteur Marco, Carole, c'est souvent confronté à de la méprise, c'est-à-dire une incompréhension du TCC. Elle se faisait souvent dire « Ah, ta fille a une commotion cérébrale, là, c'est comme mon voisin, c'est comme mon fils. » Il y a quand même une très grande différence entre le TCC sévère et la commotion cérébrale.
Oui, mais en fait, c'est le même, encore une fois, c'est le même type de blessure, mais à un degré de sévérité très différent.
Mm-hmm.
Donc, la commotion, c'est le plus léger. Par définition, au moment d'une commotion cérébrale, les imageries sont normales, les scans, nos résonances mm-hmm. magnétiques, il n'y a rien. Et l'atteinte, il n'y a pas de coma, il y a des fois même pas de perte de conscience. Alors qu'un trauma grave, c'est le coma pendant souvent des jours et des jours. Donc, l'évolution est très différente. C'est beaucoup plus long à récupérer, beaucoup plus lent. Et souvent, la récupération n'est pas aussi bonne. C'est beaucoup plus difficile de récupérer. Il y a beaucoup plus de risques d'avoir des séquelles et des séquelles qui sont graves.
Ouais. Quel genre de séquelles?
Pardon?
Quel genre de séquelles? Tout à l'heure, vous avez parlé de la mémoire, je m'en rappelle très bien. Il peut y avoir plusieurs types de séquelles au TCC sévère?
Oui, déjà, ça peut varier évidemment d'une personne à l'autre. Mm-hmm. Dans les cas les plus graves, des séquelles tellement importantes qu'on reste dans ce qu'on appelle un état végétatif.
Ah ouais, ah ouais.
Donc, il n'y a à peu près pas de contact avec l'environnement extérieur. Ils ne réagissent pas quand on parle, quand on fait des sons forts, quand on met quelque chose devant les yeux, il n'y a aucune réaction.
OK.
Ça, c'est dans le plus grave, à part évidemment de même pas survivre, là, de décéder, qui est une conséquence
ouais.
possible. Hein.
Ouais.
Sinon, ça peut être plus léger, mais il y a quand même plusieurs choses qui peuvent être affectées. Ça peut être au niveau de la motricité, de la coordination, l'équilibre, le contrôle même pour avaler.
Mm-hmm.
Puis après ça, toute justement la mémoire à court terme, beaucoup plus que la mémoire à long terme. Les gens vont se rappeler des choses antérieures, mais apprendre des nouvelles choses au jour le jour, ça devient très, très, très
mm-hmm.
difficile.
Mm-hmm.
Donc, il peut rester très confus pour savoir où est-ce qu'on est, quel jour on est, tout ça. Donc, dans le temps et dans l'espace, ils ne sont pas capables de réaliser qu'est-ce qui se passe. Dans des choses plus... subtil aussi, des gens parlent bien, sont pas confus et tout ça, marchent et tout, mais restent pas fonctionnels dans la vie de tous les jours parce qu'ils ont des problèmes au niveau des interactions sociales, par exemple,
mm-hmm.
au niveau du comportement, au niveau des émotions, où c'est des choses qu'on extérieurement, ça se voit moins, mais qui affecte profondément la vie d'une personne.
Et les relations interpersonnelles.
Exact.
Je riais, Dr Marco, parce que Catherine, elle est à ma gauche et puis elle réagit vraiment à vos propos.
Okay.
Puis des fois, elle dit « Ah oui, 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 je me reconnais. Ah non, ça, c'est pas moi. » Donc, je trouvais ça bien rigolo. Évidemment, il n'y a rien qui explique ce qui fait que quelqu'un s'en sort et que quelqu'un d'autre s'en sort pas. C'est aléatoire, tout ça?
Aléatoire et non. Évidemment, on a certains indices. Quand quelqu'un vient, c'est sûr qu'il y a certains choses qu'on voit qui sont associées avec une meilleure récupération puis d'autres une moins bonne. L'âge est quelque chose d'important.
Ouais.
Plus une personne est jeune, plus elle a de chances de récupérer.
Mm-hmm.
Et le même trauma à 20 ans, c'est pas la même histoire qu'à 80 ans. Okay? Donc, quelqu'un mm-hmm. de 20 ans a beaucoup plus de chances de récupération
ouais.
parce que bon, il n'y a pas d'autres problèmes de santé, parce que les gens sont habituellement en pleine santé autrement. Tout le reste des organes fonctionne bien parce que le cerveau aussi n'a pas commencé à en perdre un petit peu avec l'âge.
Mm-hmm, mm-hmm.
Il y a plus de capacité de compenser aussi.
Okay,
donc ouais. ça joue beaucoup. Ensuite, évidemment, ce qu'on trouve au scan, s'il y a des grosses zones qui ont été endommagées d'emblée avec le traumatisme, avec l'accident, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être récupérées. Comment, après ça, l'état neurologique à l'arrivée? Comment la victime arrive? S'il arrive en coma, mais il y a différents degrés de coma. Donc, c'est arrivé avec certaines réactions, c'est plus positif que quelqu'un qui a un coma excessivement mm-hmm. profond avec presque aucune réaction, mais par exemple du tronc cérébral, comme les pupilles, c'est des choses qu'on regarde. Puis aussi, souvent, mais quand c'est des gros traumas comme ça, c'est des accidents d'auto, par exemple, il y a d'autres blessures.
Mm-hmm.
Et si les gens ont, par exemple, d'autres blessures qui ont perdu beaucoup de sang, puis que la pression artérielle est très basse, quand ils sont en choc, ça affecte le cerveau. Le cerveau est déjà blessé, il a besoin de tout ce qu'il peut, puis là, il reçoit pas le sang qu'il faut, parce que le sang coule ailleurs.
Ouais.
Ça affecte aussi, c'est un facteur important.
Alors, ben, on doit déjà se quitter, Dr. Marcoux, mais ça nous donne vraiment un beau... Je pense qu'on aurait pu encore vous parler 10 minutes parce que j'ai encore tellement de questions. J'aurais aimé ça que vous nous expliquiez c'est quoi le coma parce que c'est tellement mystérieux. On doit toutefois vraiment se quitter. Merci pour ces explications. On se rend compte qu'une chance... Catherine, elle avait 22 ans lors de son accident. Probablement que ça a permis qu'elle arrive à s'en sortir et que maintenant, ben, elle se porte bien. Docteur Judith Marcoux, vous êtes attachée au Centre universitaire de santé McGill, neurochirurgienne spécialisée dans les traumatismes crâniens. Salutations à votre fils qui est malade. J'espère qu'il se porte mieux.
Oui, ça va. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.